Surpris par la nuit. On nous le répète trop souvent, Philippe Soler se damnerait pour être dans le champ à l'image. Qu'il publie ou non, ce n'est pas le problème, les télés se l'arrachent sans qu'il en améliore pour autant son image. Tout se passe comme s'il était dans le système, mais dans le rôle de celui qui s'en défend. C'est le méchant, sans aucun doute, celui qu'on aime voir donner et recevoir des coups, celui qui est attendu au tournant. Comment va-t-il s'y prendre pour rebondir lorsqu'il touchera enfin le fond? Car on ne veut sa perte qu'à condition qu'il s'en sorte. Il faudrait être vraiment sans cœur pour ne pas l'aimer. Il fait partie du décor depuis un bon demi-siècle, et sans lui, la scène littéraire serait sans doute encore plus triste à mourir. En vérité, la familiarité de Philippe Solers avec le monde de la représentation ne l'empêche pas de faire acte de présence, de briller même par sa présence. L'actualité récente en fait foi. Sa revue L'Infini vient de faire paraître son 100e numéro, ce qui, par les temps qui courent, relève de l'exploit. 100 numéros, c'est un demi-siècle de publication. La collection du même nom qu'il dirige chez Gallimard continue le combat de l'audace et de la liberté, une ambition totalement intempestive à l'heure actuelle. De mois en mois, ses articles du JDD et du Nouvel Obs confirment qu'il n'a pas enterré la hache de la guerre du goût en un temps où les enjeux de la lecture semblent complètement perdus de vue. Mais surtout, il y a les livres. Les 56e et 57e, si j'ai bien compté, viennent de paraître. Un vrai roman, Mémoire, chez Plon, où il visite des moments de sa vie et en laisse entrevoir d'autres entre les lignes. Et un essai, Guerre secrète, aux éditions Carnet Nord, pour se demander si la Grèce et la Chine n'ont pas des choses à se dire. Les éditions de La Différence publient en outre la réédition d'un essai sur de Kooning, écrit il y a 20 ans, de Kooning, vite. Ce n'est pas si mal, reconnaissons-le, s'agissant d'un auteur qui passerait sa vie dans des endroits où on ne travaille pas, dans les bars par exemple, les salons, les alcôves, les studios de télé, quand ce n'est pas comme ce soir à la radio. Pour autant, Solers travaille-t-il? En réalité, lit-on aux premières pages d'un vrai roman, je m'en rends compte aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé. Écrire, lire, et puis encore écrire et lire ce qu'on veut, s'occuper de pensée, de poésie, de littérature, avec péripéties sociopolitiques, n'est pas travailler. C'est même le contraire, d'où la liberté. Il faut sans doute, dans cette expérience, garder une immense confiance. Mais en quoi ? Oui, en quoi ? C'est un peu la question qui devrait orienter mes questions dans l'entretien qui va suivre. Très loin de 22h30, Philippe Solers. Pardon de vous avoir distrait de votre rendez-vous habituel avec la nuit. Il est vrai que la saison et le lieu ne s'y prêtent pas tout à fait. C'est surtout l'été et à Ré que la nuit vous fait signe. Vous en parlez dans un vrai roman.
Ah oui, c'est le moment extraordinaire. L'endroit dont vous parlez débouche sur la nuit, comme si j'étais en bateau, parce que j'habite près d'une réserve d'oiseaux, et que le ciel à ce moment-là est vraiment un planétarium offert ma considération, c'est-à-dire que là où je suis assis pour continuer à travailler, tout de suite à gauche, j'ai la grande ourse qui va se déplacer très lentement pour aller vers l'horizon où elle va disparaître vers 4 heures du matin. Et les oiseaux se sont tus. Les derniers cris, c'est vers 21h, 22h30, vraiment là, tout est admirablement silencieux. Et si je suis en forme dans mon électricité qui s'est accumulée au cours du jour, là j'en ai encore pour une bonne deux heures à tracer rapidement des lignes.
Donc entre 22h et minuit, en tout cas, vous avez les yeux non pas baissés sur vos feuilles de papier, mais levés vers le ciel.
Non, de temps en temps, je sors regarder le ciel. Voilà. Au mois d'août, par exemple, il y a des étoiles filantes qui permettent de formuler immédiatement, instantanément, le vœu de pouvoir continuer sur ce que je suis en train de faire.
L'observation du ciel, c'est pas possible à Paris?
Ben non, lever la tête à Paris, vous verrez peu de choses. Encore une fois, c'est comme si j'étais en bateau. Ça m'amène à dire qu'il y a vraiment deux catégories d'habitants dans ce pays qu'on appelle la France. Les gens qui connaissent le bord de l'eau, qui ont vécu là, soit dans des ports, je suis né à Bordeaux, puis j'ai eu beaucoup de déplacements dans des ports, pas seulement français, mais européens, dont Venise, par exemple. Mais et puis il y a une France de l'intérieur, une France continentale, une France terrienne, une France lourde, une France qui donne des écrivains qui sont originaires, en général, de Corrèze, du Cantal, de l'Ardèche, etc. Toute région, d'ailleurs, sûrement magnifique. Mais c'est comme si, souvent, on avait l'impression, dans leur point de vue, dans leur travail un peu terrassier, qui n'ont jamais vu l'eau, qui n'ont jamais vu l'océan, qui n'ont jamais pris de bateau, qui n'ont jamais navigué, etc. Je crois qu'il y a là deux France qui s'opposent. La France des ports, ou l'Europe des ports, hein, que ce soit Hambourg, Barcelone, ou même Londres, qui est une sorte de port. Et puis, une France repliée sur elle-même, hexagonale, et encore une fois, soumise à quelque chose comme un archaïsme profond, en tout cas peu européen. Donc, vous voyez, quand je suis sur cette île, je peux écouter la radio, je prends à la fois la radio espagnole, des bruits d'ailleurs, comme je parle bien l'espagnol, j'aime bien écouter la radio en espagnol, par exemple. Mmh.
Et la nuit vénitienne, alors, c'est pas tout à fait la même chose? Est-ce que ça serait
la nuit vénitienne, en général, comme je me lève très 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 tôt pour travailler, là, vers 22h30, je serais déjà en train de dormir pour pouvoir me réveiller avec vraiment le tout premier lever de soleil. Mmh.
Dans votre livre, vous dites que la nuit vous enseigne et que vous n'avez pas besoin de savoir quoi.
Et savoir, oui, c'est still night, let me night, light. C'est, je crois que c'est la nuit qu'on porte en soi qui à ce moment-là peut surgir. Enfin, la nuit, dit Nietzsche dans un passage fameux, la nuit est aussi un soleil. Voilà. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait signe vers une lumière plus intense. Les étoiles sont là, quand même. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale dans mon cœur, disait le philosophe, bien tranquille quand même, Emmanuel Kant. Même. Moi, la loi morale, je ne la sens pas, mais le ciel étoilé, en revanche, ne me parle pas de morale, il me parle de quelque chose de beaucoup plus mystérieux et de moins humain. C'est pour ça qu'être à la limite d'une réserve d'oiseaux, et avec un ciel très constellé, avec la Voie lactée, etc., etc., et puis au-delà, il y a encore davantage l'étoile, il y a encore. Puis alors, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans cette matière noire qui n'est pas envisageable, visible. Vous savez, il n'est qu'une toute petite partie de ce qui a lieu. Les trous noirs, par exemple, ne laissent pas ressortir la lumière. Etc. Alors qu'est-ce que voilà, là, on n'est plus du tout dans la société, fut-elle mondialisée, d'une petite planète assez cocasse et même de plus en plus étouffante qui s'appelle la Terre, ou qui a des endroits merveilleux pourtant, puisque on peut se poster ici ou là. Donc c'est cela. Il y a l'appel vers quelque chose d'autre. Alors les oiseaux sont quand même de tous les animaux ceux qui me parlent le plus. Vous allez parler du langage des oiseaux, mais voilà, ça m'intéressera beaucoup d'écouter ce que les spécialistes ont à dire là-dessus. Sans parler des musiciens, messieurs compris. Mais les oiseaux, alors là, ont tendance, moi je l'imagine ou je l'hallucine, à me dire des choses. C'est-à-dire vraiment les différentes sortes de mouettes, les mouettes rayeuses par exemple, qui est très très joli mot pour les désigner. Mais il y a beaucoup d'oiseaux différents, les goélands bien sûr, mais surtout les hérons que je vois en face de moi lorsque j'ouvre mes volets, les hérons cendrés, les hérons blancs des aigrettes, sans parler des familles de canards sauvages qui viennent se poser là, de différentes nationalités, j'allais dire, voilà. Et donc ces oiseaux viennent d'où, traversent, il y a les oies qu'on voit passer, là. Voilà. Donc j'avais un grand-père qui était escrimeur et tireur d'élite, et qui a vraiment transformé cette habitation, et qui était donc à la fois pêcheur et chasseur. Mmh. Donc il amarrait son bateau pour aller pêcher, et puis s'asseyait le soir sur un banc en face de cette grande étendue qui est faite de marais salants et de d'apparitions d'oiseaux. Pour tirer comme ça, voilà, de temps en temps. Canard. Non, moi je pourrais être un très bon tireur, parce qu'il paraît que c'est héréditaire. J'ai une sœur qui tire extrêmement bien, qui est tirée du moins extrêmement bien dans les concours de tir. Ma mère, ce qui était extraordinairement bizarre à l'époque, a fait beaucoup d'escrime lorsqu'elle était jeune, donc c'est l'art du combat. Et j'ai gardé d'ailleurs mon grand-père était vraiment champion dans les grands championnats d'escrime au sabre et au fleuret. J'ai gardé ses armes, j'ai gardé aussi les médailles qu'il a remportées là-dessus. Et je lui dois beaucoup, probablement, sans le savoir, dans cette sorte de transmission étrange qui se fait par la physiologie instinctive.
J'ai l'impression que vous perpétuez la tradition, mais sauf que vous avez remplacé l'épée par le stylo.
Oui, c'est ça. Il y a une forme de déplacement sur le terrain. Donc vous connaissez la fameuse affiche de Voltaire, qui manie en effet la plume comme stylo. C'est en effet la guerre pour moi, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors je n'aime pas les gens qui prêchent la paix, je crois qu'ils mentent. Je n'aime pas les gens qui se terrent chez eux dans l'indifférence sur ce qui se passe. Et donc comme je me mêle tout en étant très retiré, ce que personne n'a l'air de soupçonner, mais c'est mieux comme ça, parce que comme ça crée une fausse image. L'image sociale est totalement fausse, mais elle me sert beaucoup, parce que pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, je peux naviguer à l'aise dans des régions peu contrôlables, mais sur le terrain, ce qui m'arrive, c'est-à-dire la contestation, le bruit, la rumeur, les faux portraits, etc., la mondanité supposée, je lis des articles hallucinants sur moi, c'est très très bien, ça, parce que ça, c'est une désinformation permanente, d'ailleurs c'est le social qui s'exprime, qui voudrait absolument projeter sur moi une image. Le moi social est évidemment très différent du moi profond, comme l'a dit évidemment Proust, mais c'est une construction des autres qui se sont obligés de projeter sur vous un certain nombre de fantasmes ou de préjugés.
Ben, laissons-les de côté.
Oui, je crois. Non, mais en plus, c'est très bon, parce que ça travaille.
Oublions le bruit.
Pour faire travailler l'adversaire pour soi. Oui, c'est assez facile à faire. Et comme je me mêle évidemment de ça, je ne dois pas m'attendre à être célébré comme un de ces grands silencieux auxquels le vice rend hommage comme à la vertu.
Mais soyons justement un peu silencieux, c'est-à-dire oublions même le chant des oiseaux, oublions les étoiles et revenons à la nuit.
Les mammifères parlent beaucoup, mais les oiseaux...
La vraie nuit, c'est-à-dire la nuit noire.
La nuit noire, absolument, hein? Absolument.
Est-ce que ça ne vous fait pas peur?
La nuit noire, mais j'aime beaucoup marcher dans le noir, je marche à l'écoute et même au nez, enfin voilà. Et j'aime beaucoup me lever dans le noir, la nuit quand je me réveille vers 3 heures du matin, et marcher
dans le noir profond, parce que c'est une façon d'écouter mieux. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup la radio, d'ailleurs, si elle est bien faite, et qu'on peut, contrairement à l'exposition télévisée où on n'a pas le temps, il faut aller très vite, on peut, si on a une respiration qui vous est offerte, merci beaucoup, on peut essayer de faire passer la voix, c'est-à-dire ce qui vient au fur et à mesure qu'on parle.
La radio, d'ailleurs, ça vous ramène aussi à votre enfance.
Absolument.
C'est-à-dire à la période de Vichy.
Absolument, absolument. C'est la guerre. J'étais très, très, très frappé par ce qui se passait à l'époque, parce que Bordeaux, donc, est occupé assez vite par les Allemands. Et puis, vous connaissez, enfin, personne ne connaît rien, d'ailleurs, mais ma famille est anglophile et très, très, très tournée vers Londres, très tournée vers les Anglais, ce qui fait que je cherche depuis, à la bougie, d'ailleurs, des individus qui auraient eu pour parents ou grands-parents, puisque le temps passe, qui étaient vraiment anglophiles. C'est-à-dire, c'est très simple, anglophiles. Les Anglais ont toujours raison, tout ce qui se dit en dehors d'eux est faux. Alors, évidemment, les Allemands, il n'était pas question, il n'était pas non plus question de Vichy, de ces voix, justement, qui apparaissaient tout à coup dans un contexte aussi étrange, d'autant plus que Bordeaux était le lieu où venaient les réfugiés espagnols, c'est la fin de la guerre d'Espagne, ce qui m'a beaucoup appris. Et puis, voyez, c'était on entendait les vociférations allemandes, on entendait parler espagnol beaucoup. J'ai fait de l'espagnol très tôt, puisqu'en plus j'ai eu une aventure amoureuse avec une espagnole.
Vous avez eu une chance particulière.
C'est que ça. Je surprenais beaucoup mes professeurs par la suite au lycée, parce que je parlais presque couramment l'espagnol en dehors des cours, n'est-ce pas? J'ai fait une université parallèle. Par ailleurs, il y avait évidemment l'anglais, la radio anglaise qu'on écoutait dans les greniers, pour ne pas attirer l'attention c'est les grandes maisons avec un grand jardin, pas attirer l'attention des Allemands qui occupaient le rez-de-chaussée. Et tout ça, pour un enfant, est quand même très intéressant, notamment la radio anglaise. Alors, il y avait les voix françaises, ces voix qu'il faut réécouter, ces voix blanches, ces voix... ce matin, le maréchal Pétain est allé saluer le lauréat du prix Goncourt. Ici, bon, alors, de l'autre côté, vous aviez la radio Londres. Ici, Londres. Alors, vous aviez le brouillage, d'abord. Et vous entendiez, pour un enfant c'est très intéressant, vous entendiez ici Londres, les Français parlent aux Français, que ça peut vouloir dire, les Français parlent aux Français. Puis alors ensuite les magnifiques, la cryptographie, les magnifiques messages personnels. Et maintenant, voici quelques messages personnels, toujours de brouillage, hein. Londres comme Carthage sera détruite, disait un connard de propagande Vichy, soit Londres comme Carthage sera détruite. Eh bien, il y avait les messages personnels. Les messages personnels, c'était une hirondelle ne fait pas le printemps. Je répète, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ou alors, les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Les renards n'ont pas forcément la rage. Je répète, les renards n'ont pas forcément la rage. Avec tout ça. Et pour un enfant, c'était absolument magique. Donc, les Français qui sont pas en France parlent aux Français qu'on ne connaît pas, et leur transmettre des messages codés où il faut comprendre qu'il faut il faut vite qu'on ait dénoncé, qu'il faut le moment est venu ou pas de faire sauter un train, etc. En plus, il y avait dans les caves, on s'en va à Bordeaux, il y avait des caves profondes qu'on rejoignait lorsqu'il y avait les bombardements sur Bordeaux, j'allais dire d'admirables bombardements, des batailles aériennes absolument merveilleuses, extraordinaires, des explosions, etc. Et donc, il y avait en plus des gens qui passaient par là. C'est-à-dire évidemment des aviateurs anglais qu'il fallait faire ensuite passer en Espagne par une voie dont mon père s'occupait parce qu'il avait une amie anglaise qui était là dans les coins. Bref, tout ça très très perturbé et avec une superposition de langues dont je crois peu de Français ont eu l'occasion de se rendre compte à quel point c'était intéressant. C'était vraiment polyvalent et contradictoire. Parce que les gens qui avaient le pouvoir étaient vomis par ma famille elle-même, j'avais d'autres intentions qu'elle, etc., etc., etc. Voilà, c'est comme ça que se forment les années d'enfance, et comme il n'y a pas plus important que l'enfance finalement... c'est même pas besoin d'aller voir Freud pour en être certain. Donc voilà, ça s'est joué comme ça, et ça reste vraiment La chose où je puise alors sans arrêt, n'est-ce pas, une mémoire très très active.
Une enfance très auditive.
Oui, c'est ça. Oui, absolument, absolument.
Hein?
Oui, oui.
L'université, c'est votre oreille?
Bien sûr, d'où la musique, bien sûr. Puis à l'écoute. Mais vous savez, l'écriture, c'est une question d'oreille. Hein. Comme dit Hemingway, un écrivain sans oreille, comme un boxeur sans main gauche, il va vite au tapis. Je crois, vous ouvrez un manuscrit, je fais ce métier. Il y a une voix ou il n'y a pas. Un livre, c'est pareil. Il y a une voix. Voilà, elle peut être extrêmement différente d'un auteur à l'autre, mais vous êtes saisi immédiatement par une voix. Voilà. Et ça, c'est la chose même. C'est pour ça que l'écriture est un art, hein, très proche de la musique quand même.
Philippe Solers, vous nous avez dit le clavier bien tempéré par Glenn Gould ou rien.
Voilà. On pourrait écouter ça très longtemps. Gould est un personnage qui m'a absolument fasciné. J'aurais aimé le connaître, mais bon, c'était pas possible. J'ai tous ces enregistrements. Vous voyez la délicatesse, le sérieux, la profondeur de chaque note. Voilà, c'est ça. Si un mot, lorsqu'on écrit, ou plusieurs mots, pouvaient être traités de cette façon, je crois qu'on y arriverait bien. Bach, il y a une anecdote que j'adore. C'est Frédéric, l'empereur de Prusse. Alors, il avait tous ses courtisans à dîner. Et puis, à un moment donné, on vient lui souffler quelque chose à l'oreille. Et alors, l'empereur se lève, et musicien, vous savez, il se piquait de musique. Et donc, il fait lever tout le monde et il leur dit « Messieurs, le vieux Bach est arrivé. » Voilà. Alors, le vieux Bach dans la neige, on le mettait tout de suite au clavecin. Voilà.
D'ailleurs, dans un vrai roman, vous le désignez comme ça, le vieux Bach, de temps en temps.
Le vieux Bach, oui. Oui, celui-là, oui. Le plus jeune de tous les musiciens. Le cinquième évangéliste, comme je l'appelle. Et puis alors, Gould est fabuleux parce qu'il a compris une chose, c'est qu'il fallait se pencher rigoureusement sur les enregistrements. Hein, au fond, c'est de la radio qu'il a fait. On l'a aussi filmé. Il faut le voir avec la mâchoire pratiquement sur les touches, en train de s'écouter jouer, d'anticiper. C'est prodigieux. On l'entend de temps en temps marmonner. Il y a deux musiciens qui font un peu la voix. C'est lui et Pablo Casals. Mmh. D'ailleurs, sur Bach aussi. Pablo Casals dans les fabuleuses suites pour violoncelle. Et là, on sent que tout le corps est là, d'une certaine façon, tout à fait nouvelle. Le corps des musiciens me fascine. Je pourrais vous parler longuement de mon amie Cecilia Bartoli, par exemple, qui est prodigieuse. Mais le corps des musiciens est un corps qui ne peut pas tricher. Et donc, je n'ai plus aujourd'hui de considération, vraiment de respect, pas pour les écrivains, parce que tout le monde est écrivain, sauf moi, à la limite. Les peintres ne savent pas dessiner, sont installateurs culturels ou animateurs culturels. Bref, tout est dans un fouillis, l'art contemporain. Bon, passons.
On met
la collection Pinault.
L'art contemporain, comme vous êtes en train de le faire, vous allez passer pour un vieux ringard.
Ah oui, bien sûr. Oui, c'est justement l'art contemporain qui est ringard. Vous prenez toute la collection Pinault, même celle de Peggy Guggenheim, vous mettez tout ça dans la lagune et Palladio ressort sans fou éperdument. Oui, ringard je suis, bien sûr. C'est pour ça que j'aime les choses essentielles. Et
tu parles. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a dans le corps des musiciens une façon d'être constante, hein, parce qu'il faut, vraiment tenir le coup. Et c'est des gens que je respecte infiniment parce que ils ne peuvent pas tricher. Alors tout le monde triche aujourd'hui, leur contemporain compris, parce que encore une fois, ce sont des gens qui ont un rapport très 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 ignorant à l'art. Et là, en musique, c'est pas possible. Je ne peux pas vous dire que je vais vous jouer, en effet, le clavier bien tempéré de Bach après-demain. Voilà, parce que vous verrez tout de suite que je ne sais pas le faire. En revanche, je pourrais éventuellement vous convoquer pour mon exposition de peinture, qui serait pas plus mal qu'une autre.
Donc en musique, on ne peut pas tricher, on peut pas mentir.
Je crois pas. Ouais. C'est pour ça que, quelle que soit la musique d'ailleurs, bon, je prends Gould, mais les musiciens de jazz sont aussi pour moi, et ça a été très tôt le cas, des musiciens absolument magiques, que ce soit Thelonious Monk ou Charlie Parker.
La musique classique, après le jazz et le flamenco, ont fait irruption dans votre vie, justement, à l'époque du collège.
Très tôt, vers 12-14 ans, oui. J'allais acheter les disques, oui, c'est ça. Des 78 tours, j'en ai une pile épouvantable dans un, ébréché dans, je sais plus dans quelle armoire. Et donc, c'était un ravissement que d'écouter les premiers musiciens de jazz, en tout cas, après l'époque sinistre, en effet, de l'occupation et de la collaboration.
Dans Un vrai roman, vous rappelez un concert de chant du Purcell à la chapelle, à la chapelle chez les jésuites.
Oui, chez les jésuites où je m'emmerdais ferme. J'ai fini par être renvoyé d'ailleurs comme tocard puisque je lisais des livres défendus. Les jésuites m'ont trouvé très tocard puisque je lisais ça dès l'autre amont. Voilà. Mais il y a eu un soir, je m'embêtais beaucoup. J'ai fini par me faire renvoyer d'à peu près partout, mais ça a pris parfois du temps pour se faire réformer de l'armée ou de la guerre d'Algérie, envoyé de chez les jésuites pour lecture de livres défendus. Tout ça. Mais il y a eu un soir un concert, ça c'était la première fois, 14-15 ans, un concert à la chapelle, et c'était des chœurs de jeunes garçons, oui, qui chantaient du Purcell. Là, c'était vraiment une illumination. Je crois que j'ai été le seul d'ailleurs à ressentir. Mais alors, cette illumination a été suivie d'une enquête, c'est-à-dire que... Voilà. J'ai après écouté beaucoup de personnes, mais beaucoup d'autres musiciens aussi.
Ah, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans que Glenn Gould est mort. Et,
ouais.
Et dans votre livre, vous parlez de Bach comme d'un vainqueur de la mort.
Oui, c'est-à-dire Bach est là, vivant. Lorsqu'on écoute Gould, on sent sa présence. Moi, j'ai une très forte tendance hallucinatoire, probablement, mais profonde. J'ai ça depuis très très longtemps. J'ai l'impression que les morts sont très vivants. Ils sont même peut-être plus vivants que les vivants. Je passe mon temps à voir des gens qui sont morts en art contemporain ou ailleurs, si vous voulez, ou écrivains, des cadavres ambulants. En revanche, j'ouvre un livre, je ne sais pas ce que vous voudrez, Homère, ou j'ai l'impression tout à coup que ça me parle comme à l'oreille. La bibliothèque a tendance à sortir de son silence et à me murmurer des choses à l'oreille. Alors que... Évidemment, j'ai une bibliothèque très, 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 très bien faite depuis toujours. C'est la première chose que Houellebecq m'a demandé quand on s'est rencontrés autrefois. Il m'a dit, vous avez une bibliothèque? Oui. Mais classée comme ça? Non, j'ai dit, mais enfin, je sais reconnaître si j'ai des livres là, des premiers siècles de notre ère, ou du 15e, ou du 17e. Ah oui, parce qu'il m'a dit, moi, j'ai appris à lire dans les livres de poche. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire un peu en désordre, sans vraiment historiographier la lecture. Alors, l'histoire, c'est très quand même... extrêmement important. Vous aurez noté que ce qui est évacué en ce moment, avec bien d'autres choses, dans la dévastation générale, c'est travailler plus pour penser moins, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qui nous est asséné tous les jours. Donc, dans cette période de régression, de dévastation générale, alors le sens de la lecture et de la mémorisation des mots, c'est un enjeu primordial, parce que quand on ne sait plus lire et des choses différentes, on ne peut plus non plus former un esprit critique, donc on fabrique des esclaves serviles, ce qui est quand même l'objectif de toute tyrannie, nous y sommes. Deuxièmement, évacuation de l'histoire. C'est très très important. Les gens croient que ça vient d'arriver. Ils sont là, ils sont chez eux, il ne s'est rien passé avant. Et là, l'ignorance historique devient alors quelque chose d'abyssal. Et donc, voilà, c'est ça la vraie histoire de notre temps. L'argent, plus l'argent, plus l'argent. Pourquoi lire? Pourquoi s'emmerder avec des histoires d'histoire? On fait des commémorations, ce qui n'a rien à voir avec la connaissance de l'histoire. Même c'est le contraire.
Tout ça nous éloigne un peu de Jean-Sébastien Bach.
Et Jean-Sébastien Lebach, voyez-vous, c'est quelque chose où vous le mettez, puis vous êtes absolument dans le ravissement de sa méditation, quasiment mathématique. Mais vous avez Mozart qui vient d'un... C'est un garçon qui monte, Mozart, je vous assure.
Vous croyez?
Ah oui, oui, à mon avis, oui. Oui, oui. Retenez ce nom.
Ouais. Mais Bach a un dieu. Est-ce Bach, que ce, Bach ce dieu...
Bach a une foi très étrange. Voilà. Mmh. Dès qu'on écoute sa musique sacrée, on comprend qu'il est totalement en train de jouer la grande partie avec Dieu. Und Gott sprach. Voilà. Et Dieu dit.
Est-ce que le dieu de Bach est de vos intimes?
Ah ben, bien sûr, c'est un intime absolu, puisque je l'écoute tout le temps. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le dieu de Bach, ça sera le dieu de qui voudra, à condition d'écouter la musique de Bach. Il faut surtout pas croire que le dieu de Bach est celui de tout le monde.
Ce livre, Philippe Solers, un vrai roman, sous-titré Mémoire, que vous publiez chez Plon, sous une couverture plus blanche que celle des éditions Gallimard. Mémoire, c'est un sous-titre que vous avez donné vous-même?
Ah oui, absolument, c'était très médité, oui. Mais je t'explique pourquoi, parce qu'on me reproche en général de ne pas écrire de vrais romans, parce qu'un vrai roman, vous savez ce que c'est pour la sociologie actuelle, enfin... C'est un livre, on l'ouvre et il faut suivre un film, en fait. Mmh. Voilà, c'est un début, un milieu, une fin. Et puis les mots sont là pour provoquer, en effet, une impression cinématographique. À ce compte-là, Proust est beaucoup trop long, et puis toute la littérature peut être vite évacuée, puisqu'elle n'est pas filmable. Mmh. Donc, des livres,
c'est le roman américain.
C'est le roman américain, bien sûr. C'est le roman vite, avec une sorte de puissance, d'imposition. Vous avez vu cette dernière couverture de Time, qui dit, avec un dessin, on voit une sorte de pauvre clown triste. Et le titre, c'est Death of French Culture. La mort de la culture française. C'est étrange que les Américains, empêtrés comme ils sont à Bagdad ou au Proche-Orient, trouvent le temps de faire des couvertures aussi agressives à propos de l'agonie qui serait celle de la culture française. Et on vous dit exactement le type qui a fait cet article. Donc urgent, il fallait urgentissime.
Mais Antoine du Compagnon a répondu d'une certaine manière.
Antoine du Compagnon n'a pas répondu avec l'agressivité qu'il fallait. Moi, je déclare la guerre aux États-Unis de l'Amérique, là, je vous le déclare ce soir, vous verrez comment ça va se passer. Donc, il y a, citez-moi le nom d'un écrivain, dit le journaliste américain, citez-moi le nom d'un écrivain, writer, of global significance, d'une signification globale. Et alors, il n'y a personne. Alors, c'est comme je suis condamné à mort, là, je viens de l'apprendre par le gouvernement des États-Unis, ou du moins l'expression de sa presse la plus fondamental, Time. Eh bien, écoutez, quelle que soit la disproportion des forces, dont je suis bien conscient, croyez-moi, je vais déclarer la guerre aux États-Unis d'Amérique. Je ne serai dans ma partie. Je me mêle pas de l'islamisme radical.
Vous parliez tout à l'heure de votre sensibilité aux voix, à l'importance du ton dans l'écrit, et en lisant un vrai roman. Je me suis demandé si ce que vous aviez cherché à faire, c'était pas votre Ecce Homo. Le ton le rappelle, peut-être le projet aussi. D'ailleurs, c'est un exemplaire que vous avez chez vous encore. Vous l'avez lu et relu, ce livre de Nietzsche, tout dépenaillé. On pourrait dire qu'il y a deux vieux dans votre livre, le vieux Nietzsche et le vieux Bach.
Oui. Ils sont très proches, finalement, si on écoute bien. Ce qui m'intéressait de plus chez Nietzsche, c'est Ecce Homo dont je parle, un livre absolument à lire, à relire, à relire, à relire. Nietzsche aimait beaucoup Stendhal, vous rappelez peut-être. Les mémoires en général sont un ton nostalgique, c'est les mémoires d'autres temps, c'est les mémoires sur le passé, il y a souvent des regrets ou une certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Là, c'est le contraire, c'est un livre de combat, et c'est un livre d'affirmation. Et quand j'ai eu trouvé le ton qui était plutôt stendhaloïde, là c'était parti. Et en définitive, c'était pour quoi faire, pour me demander vraiment, sérieusement. C'est là dans la suite d'un roman que j'ai écrit qui s'appelle Une vie divine, où je me suis beaucoup occupé de la vie très précise de Nietzsche, légèrement, je crois. Et il faut un jour que tout le monde se dise ça. Est-ce que je revivrai ma vie de la même façon? Éternellement, donc l'éternel retour, quels que soient les deuils, les obstacles, les maladies, les souffrances, etc. Voilà, et aussi les clairières, les plaisirs, les joies. Mais est-ce que je choisirais, oui ou non, de revivre la même vie? Donc vous voyez bien que c'est un principe de sélection. On se répond oui ou on se répond non. Non, ça veut dire oui, ça ira comme ça, la barbe, finalement je préfère mourir. Ou alors, si on dit oui, c'est un blasphème épouvantable, parce que je crois qu'il y a peu de personnes qui oseraient dire ça. Il vaut mieux ne pas l'avouer, d'ailleurs. Il vaut mieux se dire oui en secret. Hein, parce que tout de suite, on risquerait de passer à pour fou, ce qui est arrivé aussi à Nietzsche, n'est-ce pas, qui est tombé, mais qui n'est pas tombé parce qu'il a pensé ça. Il est tombé parce qu'il était malade physiquement. Donc voilà, je crois que c'est une question sérieuse et légère. Enfin... tragique et complètement gay aussi, n'est-ce pas, le gay savoir. Est-ce que vous dites oui à votre vie pour la recommencer? Ou bien est-ce que vous trouvez que, après tout, vous n'étiez pas une nécessité? Voilà. C'est la question qu'on se pose lorsqu'on se demande si on est, malgré tant d'embarras, des erreurs, tant que vous voudrez, mais aussi avec une force d'affirmation particulière. Alors, il est évident, si vous écoutez Jean-Sébastien Bach, si on lui avait posé la question de façon évidemment rétroactive et chronologiquement absurde, vous pouvez pas se dire ça. Il avait son Dieu là sous les doigts, si je peux dire, sous les pieds quand il jouait de l'orgue. Vous lui posez la question, il vous aurait répondu mais bien sûr, mais oui, j'aurais écrit la passion selon Saint Jean, la passion selon Saint Matthieu, les cantates, les concerts, tout, voilà, je crois, oui. Ça s'entend. Il y a cette force d'affirmation. Vous ouvrez la plupart des livres aujourd'hui, vous voyez que les narrateurs sont dans leur embarras, ils ont l'air perdus un peu, ils sont dans différents embarras psychologiques, sexuels, etc. Enfin, on sent quand même qu'ils reflètent ce qui permet d'ailleurs, comme les Français disent le plus grand mal d'eux-mêmes, ce qui permet évidemment à la presse américaine de dire, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont en train de mourir, allons-y gaiement, c'est pas puisque disons qu'ils meurent. Si vous dites si vous êtes dans le désenchantement de la littérature, à savoir que c'est l'apocalypse, il n'y a plus rien, c'est le livre de Richard Billier avec qui j'ai discuté dans le magazine littéraire récemment. Eh bien, si vous dites ça, pourquoi voulez-vous que l'adversaire qui ne songe qu'à vous éliminer ne le dise pas? Vous voyez, ils le disent eux-mêmes, ils meurent.
Mais vous, comment avez-vous procédé pour vous ressouvenir de votre vie en avant?
Eh bien, ça, je crois que ça vient de loin. ça vient très tôt, ça vient dans l'enfance. Premièrement, parce qu'on se rend compte que le monde est très troublé, perturbé, contradictoire. Je pense que c'est ça la chose qui vous permet de tirer, si j'ose dire, votre épingle subjective du jeu. D'autre part, vous avez ou pas la possibilité de voir que les adultes mentent. Qu'ils ne disent pas ce qu'ils font, qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Et encore, j'étais dans un milieu très tolérant et très modéré, ce qui m'a permis probablement de passer sans recevoir trop de coups et en m'absentant de cette comédie. Mais enfin, vous trouvez que la société a tendance à mentir, à vous cacher les choses, à essayer de vous courber, de vous serviliser, de vous faire travailler plus pour gagner plus, n'est-ce pas? Voilà, par exemple. Ce qui contredit admirable le graffito de Debord, qui devrait être dans toutes les mémoires, qu'il a osé faire en 1900, reste extraordinairement blasphématoire. Je me demande parfois si je vais pas reprendre un pinceau et aller mettre ça sur les murs d'un de mes éditeurs. Ne travaillez jamais. Quelle horreur, quel blasphème qu'on l'exécute. Donc, voilà, très tôt, on est sensible à ce mensonge-là. Hein. Mmh. Donc, au mensonge en général, je crois qu'on devient pas écrivain ni poète sans avoir un sentiment très aigu de la cocasserie, de la farce, du mensonge et parfois de la cruauté et de la violence humaine. Voilà.
Là, dans ce livre, c'est pas votre vie que vous racontez. D'ailleurs, dans Femme, en 1983, vous disiez « Racontez ma vie ». M'ennuie à mourir.
Oui, ça ce sont deux... Femme, c'est un roman, j'ai beaucoup de choses à dire à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un livre qu'on peut relire parce que, à mon avis, pas une ride, et ça, c'est un constat, c'est paru il y a...
83, hein, je crois.
Oui, 83, c'est ça. Eh bien, on peut le rouvrir. Il y a, je crois, pas une erreur sur ce qui se passe entre les sexes, la guerre des sexes, avec en général une note continue de violence, plus ou moins feutrée, et puis, figurez-vous, des clairières, des pauses, des armistices, des échappées, des idylles qui ne tournent pas forcément mal, mais c'est rare.
Vous faites une différence entre écrire et vivre ?
Non, je comprends pas ça. Ça, c'est vraiment une thèse très 19e-biste. Vous savez, c'est ce que j'appelle le catéchisme Flaubert. Alors, il faut relire le tome 5. Enfin, le tome 5 vient de paraître en plein, mais la correspondance de Flaubert là-dessus est extraordinairement intéressante. Il ne faudrait plus vivre à la limite pour pouvoir continuer à écrire dans une sorte d'étouffement, de solitude terrible. Ça, c'est le 19e siècle. En revanche, je ne crois pas que c'était ça qui pouvait se poser dans le siècle de Bach, qui est quand même le 18e siècle, où il y a vraiment là énormément de créativité. Je ne sens pas je ne sens pas Voltaire, Diderot, les encyclopédistes qui seraient allés à la télévision d'ailleurs, si vous en avez eu l'occasion, pourquoi pas, ou à la radio, encore mieux. Je ne les sens pas du tout. Séparer le fait d'écrire de celui de vivre. Mmh. Donc quelque chose s'est cassé et il faut en faire la généalogie.
D'ailleurs, vous êtes
Nietzsche dit ça, écrire. Oui, c'est absolument la même chose.
Mmh. Vous écrivez que la vraie vie, la vie réellement vécue, c'est le livre.
Oui.
Car l'autre, la sociale, est toujours un enfer plus ou moins brûlant.
Oui. Il faut préciser, n'est-ce pas, pour savoir écrire, il faut savoir lire. Alors, si vous détruisez la capacité de lecture, si vous ne savez pas lire, c'est pas la peine de dire que vous savez que vous pourrez écrire. Or, je vois beaucoup de jeunes gens qui croient qu'ils peuvent s'exprimer directement leur sublime personnalité supposée et sans lire. Mais savoir écrire, c'est savoir lire. Mais alors, savoir lire, c'est savoir vivre. Hein, c'est pas de moi d'ailleurs, c'est de bon, pour savoir écrire, il faut savoir lire, il faut savoir vivre. Si vous vivez pas d'une certaine façon, vous ne lirez pas ce qui vous est destiné parce que vous n'en aurez aucune expérience vécue. Et si vous voulez écrire sans avoir lu, eh bien votre ignorance éclatera au fur et à mesure que vous multiplierez les approximations. Voilà. Donc tous les écrivains ont été de grands lecteurs sans pour autant l'afficher. Certains ont l'air comme ça d'inventer tout d'eux-mêmes, mais c'est pas vrai. Céline était un très très grand lecteur, mais il a l'air de sortir ça de lui-même, il disait. tous les artistes. C'est comme un peintre qui connaîtrait pas la peinture, c'est pareil. Ou un musicien qui connaîtrait pas la musique, absurde. Vous voyez, c'est un art. Il faut savoir vivre pour savoir lire et savoir écrire.
Ouais, je vous citais Femme, Philippe Solers, il y a un instant, et vous m'avez dit, ça c'est un roman. C'est un roman, donc...
Oui.
Une fiction.
Ben c'est une fiction, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnages divers, d'ailleurs, dont certains sont plus ou moins clés, qui ont été. Puisque vous parlez de femmes, un mot, ce livre comporte énormément de personnages de femmes. Or, lorsqu'il est paru, la critique s'est intéressée aux personnages masculins, parce qu'ils ont pu reconnaître à la fois Barthes, Lacan, Althusser, d'autres. Et tabou sur les personnages féminins. En général, alors là, je me demande s'il n'y a pas là, en effet, une très, 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 très énorme question. Parce que, dans Femmes, il y a beaucoup de femmes. D'abord, j'ai fait le catalogue, puisque j'ai été beaucoup sur le terrain de toute la période antérieure, c'est-à-dire depuis 68, 70, les années 70, c'est-à-dire, bon, j'arrive à un certain nombre de conclusions. Il y a une sorte de tableau général de ce que j'appelle les femmes plus ou moins positives, plus ou moins négatives, si l'on est un homme, et puis je raconte un peu ce qui se passe sur le terrain. À mon avis, comme personne ne l'a fait, parce que les personnages sont très très différents. Et un jeune universitaire venu me voir un jour, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit « C'est curieux, on ne parle jamais des personnages des femmes dans vos livres. » Ah, j'ai dit « Oui, c'est peut-être. » Alors, je lui ai dit « Écoutez, voulez-vous m'en faire un catalogue, au cas où on pourrait voir ce qui s'y passe, puisqu'elles sont très différentes, elles sont de nationalités diverses. Il y a une chinoise, par exemple, dans Femmes, que personne n'a remarqué, mais c'est dommage. Mais, ou une clavecinis, ou, etc. Elles ont des professions différentes, elles ont des allures différentes, elles ont des pratiques physique différente. Donc je suis, voyez-vous, un ethnographe méconnu. Mmh. Et donc il m'a dit, allez, les raconter. Il m'a dit, oui, il y a presque 200 personnages. Alors, faites-moi un catalogue, et puis nous dirons, exposer ça à la télévision, à la radio, si on nous donne l'occasion de le faire.
Les femmes, vous dites que ce sont les meilleurs alliés de la fiction.
Absolument. Je crois que elles l'attendent, si j'ose dire, enfin pas toutes, hein, faut pas exagérer. Mais je suis pas sûr. Oh, Laurence Parisot, peut-être, on ne sait jamais. Enfin, ouais, je crois que les femmes, comme a dit d'un mot magnifique Hegel, sont l'éternelle ironie de la communauté. Et donc, elles sont toujours en décalage par rapport à au rôle qu'on leur fait subir. En général, d'ailleurs, de façon très, très surveillée. Hein. Ironie de la communauté, ça veut dire que la fiction dans l'existence. D'ailleurs, c'est elle qui lise des romans. De mauvais romans. Enfin, pour Madame Bovary, il y a énormément de romans. Et Molly Bloom, dans Ulysse, veut que son mari lui rapporte des romans comme Les Douceurs du Péché, par exemple. Des livres absurdes. C'est elle qui forme les gros bataillons de la fiction. En général, une fiction tout à fait idéalisée. Il y a qu'à voir les magazines, hein, les magazines féminins, etc. Mais constitutivement, elles vont vers une possibilité de fiction. Elles rêvent à ça. Donc, peut-être, un prince charmant, n'importe quoi, dans le vieux style, un crinoline dans la tête. Ouais. Mais elles sont disposées à faire alliance avec la fiction. Alors évidemment, avec un vrai professionnel de la fiction, si j'ose dire, dur, autrement dit musical, intéressant, ça peut se passer très bien.
Mmh. Ce sont les femmes qui vous ont appris à trouver le réel, la vérité,
la
cohérence.
J'ai commencé très tôt avec ce personnage de femme espagnole que je décris dans mon premier livre.
Oui, dites mon espagnol.
Une curieuse solitude. Et qui avait 30 ans et moi j'en avais eu 15, ce qui m'a donné une université rapide et parallèle sur ce plan-là. Je trouvais mes congénères, enfin les gens qui avaient mon âge, je les trouvais extraordinairement en retard par rapport à ça. Voilà. Ensuite, j'ai continué avec des alliances que je donne là quelques noms qui sont en quelque sorte officiels, l'adorable Dominique Rollin ou Julia Kristeva que j'ai épousé. Bon,
mais une que vous dites la plus belle et l'autre la plus intelligente.
C'est la plus intelligente que j'ai rencontrée. Je dis voilà. C'est
ouais.
Oui, sans aucun doute. Bon. D'où le fait que Parce qu'il était en difficulté, que j'ai pu accepter, parce qu'il était très loin de mon esprit, ce qu'on appelle le mariage. Autant, vous savez, vous connaissez le monde Apollinaire, je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison. Voilà. Alors, ça évite énormément de psychologie inutile. D'ailleurs, c'est une excellente psychanalyste. Voilà, comme ça. Donc, passons. Mais cela dit, il y a eu toujours dans ma petite aventure des alliances tout à fait à l'improviste avec des femmes. J'insiste là-dessus parce que je ne suis pas sûr que ça soit si courant dans la littérature française, du moins de notre temps.
Dans les grandes villes que vous avez visitées,
oui.
Vous fréquentiez aussitôt les quartiers chauds ?
Mais bien sûr, oui. Très tôt, oui, très tôt. À Paris, bien sûr, surtout à Barcelone, qui était, lorsque j'y ai vécu assez longtemps, au début des années encore, au début des années 1960, était un quartier de prostitution absolument enchanteur. Là, il y avait là encore ce qui restait du célèbre Barrio Chino. Et donc là, il y avait des endroits où la prostitution était dans une gaieté, une efflorescence. Enfin bon, on la décrit en général comme misérable, et d'ailleurs elle l'est devenue pour la plupart, puisque c'est là. Mais enfin, c'est là où Picasso quand même a fait ses études, hein, dans la petite rue d'Avignon, qui est en bas, là, des Ramblas à droite. Et donc, il y a toute la période érotique de Picasso, qui n'est compréhensible que si on sait qu'il a fréquenté énormément cette région.
Mais vous, fait des études, Philippe, c'est pour le besoin de vos études aussi que vous avez fréquenté?
Bien sûr. Le sexe sans connaissance est nul, et la connaissance sans sexe est nulle aussi. On a demandé un jour à Picasso, sérieusement, c'est Jean Lébary, qui dit, alors voilà, mes étudiants voudraient savoir, Picasso, si quelle est la différence entre l'art et l'érotisme. Alors, Picasso a répondu, et il y en a aucune. Aucune. Et alors, il dit, mais il a dit aussi, enfin, l'art n'est jamais chaste, et s'il est chaste, ça n'est pas de l'art. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va donner dans la pornographie l'aide, l'intentionnalité. Nous sommes dans une époque qui a trouvé le moyen de rendre le sexe ennuyeux et laid, alors qu'il était quand même souffré au 19e, encore, voyons, oh là là, les fleurs du mal, Madame Bovary, bon, il y avait encore des dévots de l'ordre moral, c'est en fait semblant aujourd'hui, c'est pas vrai. Donc tout ça reste 19e mise dans les têtes. L'enfer des bibliothèques, la nuit sexuelle à chaque instant, tout le déballage de cette croyance sexuelle qui est à l'opposé du moment où c'était diabolique. Mais c'est la même chose, c'est la même ignorance de la pratique réelle.
Que nous sommes en train de faire une émission sur un vrai roman en mémoire, le livre que vous publiez chez Plomb, sans avoir prononcé les noms de François Mauriac, Aragon, Francis Ponge et quelques autres, sans avoir parlé de Tel quel ou de l'infini.
Ça qui prouve bien qu'il faut faire au moins 4 autres émissions.
Mais vos livres, on en a cité un comme ça.
Donc, au moins 15 émissions.
Il y en a que vous aimez particulièrement ?
De mes livres? Ah oui, femme, je crois, quand même, un événement. Pour moi, en tout cas, paradis, oui, ça, quand même, ça a été des années intenses. Et puis, je dirais, La guerre du goût, qui est quand même un livre qui, maintenant, est en poche, qui est très, très utilisé comme encyclopédie renouvelée, voilà, de la critique à travers la bibliothèque. Voilà, puis Une vie divine, et puis le dictionnaire amoureux de Venise, qui est indispensable à toute personne qui aborde à Venise, hein, sans croyant connaître Venise, voilà. Et puis celui-là, puis d'autres, puis tous, quoi. Ils sont très bien, tous. Et puis Carnet de nuit, tenez, qui a été édité
il y a longtemps, à
l'époque par quelqu'un qui s'appelait Alain Weinstein, que vous connaissez peut-être.
C'est d'ailleurs déjà ses plombs, hein.
Et qui était déjà là et qui a disparu complètement jusqu'à ce que j'en récupère un exemplaire qui traînait, qu'il reparaisse en folio, et qui est un livre que je vous remercie puisque j'en ai l'occasion de m'avoir fait écrire par petits fragments qui, à mon avis, tiennent bien le coup, bien qu'ils datent d'il y a pratiquement 20 ans.
Et c'était le début d'une histoire qui n'est toujours pas terminée, d'ailleurs.
L'infini, c'est pas un titre par hasard. Voilà.
Alors, je me demandais si vos livres se sont écrits tout seuls, parce que tout à l'heure vous disiez...
Je voudrais qu'on en ait l'impression.
À quel point le travail ne vous préoccupait
pas.
Le
labeur, oui. Encore une fois, le catéchisme dit, bien, c'est difficile d'écrire, le vertige, la page blanche, vraiment... Voilà, tout ça m'était absolument étranger, parce que nous entrons à ce moment-là dans l'idéologie de quelque chose de compliqué, de... Vous savez... Encore une fois, c'est ça. Manet avait un mot, Manet, qui est adorable parmi les génies à travers les siècles, a eu le mot qu'il faut, jamais de pinsomme. Voilà. Donc autrement, c'est scolaire, c'est apprêté, il faut absolument que j'écrive, je n'y arrive pas. Bon. Et voilà, c'est très, 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 très propagandisé, et même, on ne prend au sérieux que les gens qui ont des difficultés pour écrire. Bon, tant pis, je ne serai jamais respecté au point que je suis tombé sur cette phrase de Flaubert magnifique. Il suffit de savoir écrire pour que personne ne vous prenne au sérieux et que vos amis vous traitent comme un gamin. Vous voyez à quel point c'est enraciné. Et ça vient de quoi? Eh ben, Flaubert lui dit, je sais qu'il, lui, il avait des difficultés, j'ai écrit 10 pages en 2 mois, c'était déjà, et il dit, mais je crois à la haine inconsciente du style, ça va très loin, ou une haine de la littérature. Il y a une haine humaine de la littérature, il faut creuser ça quand même. Qu'est-ce que c'est, pourquoi je haïrais la littérature? Eh bien si, la sacro-sainte littérature, même jusqu'à dire Flaubert, qui avec son embarras devient le génie de cette dénonciation de l'étouffement, en même temps que c'est lui. Et lui seul, il faut y revenir, parce que nous sommes dans une époque qui demande absolument qu'on s'en rende compte, qui a découvert quand même et sondé à fond quelque chose qu'il appelle de son nom, la bêtise avec un grand B. Alors la bêtise du bourgeois, mais la bêtise des socialistes, ou la bêtise tout court, comme très générique, dictionnaire des idées reçues, clichés, journalisme déjà critique, qui savent pas. Vous voyez, la bêtise fascinée, trop d'ailleurs peut-être. Ah, il dit la bêtise, oui, après tout je m'en plains, mais c'est absurde, c'est imbécile de se plaindre de la bêtise, autant se plaindre de la pluie.
C'est vrai que l'époque, vous en parlez...
L'époque est bête, monsieur.
Comme dans un état d'effondrement.
Oui, l'effondrement est bête, oui, parce que c'est... Oui, c'est ça. Non, ce qui se passe en France est très intéressant, et c'est pour ça que, je vous dis, la propagande américaine a raison de s'emparer du marché et de profiter de cet effondrement, qui est spécifique à la France. Pourquoi? Parce que les Français se sentent coupables, à juste titre d'ailleurs, de ce qui est coupable depuis fort longtemps, mais alors à plein de ce qui s'est passé au moment, évidemment, de l'occupation et de la collaboration. Voilà, ils se sentent coupables. Alors, le coupable rumine sa culpabilité, essaye de se révolter contre, et en même temps se condamne lui-même parce qu'il se sent coupable. Voilà. La culpabilité, inhibition, symptôme, angoisse, voilà, culpabilité. L'angoisse, c'est de la culpabilité, bien sûr. Merci Freud, allô, nous savons de quoi il est question. Les Français se sentent coupables. Alors, là, le mot, moi, que j'adore, parce qu'il correspond à mon expérience enfantine, et puis après, c'est le dialogue, vous savez, entre Hitchcock et Truffaut. Truffaut ne s'est pas poussé Hitchcock dans ses retranchements. Il lui dit, mais Comment est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce sentiment de culpabilité? Il parle de I Confess, qui est traduit en français, le film magnifique. Je ne sais plus comment c'est... là où il y a ce jésuite admirable qui joue, hein, qui ne veut pas donner le secret de la confession. Enfin, I Confess, bon. C'est Montgomery Clift. Bref, il y a un dialogue admirable entre Truffaut et Hitchcock. Hitchcock est un génie du cinéma dont je reverrai tous les films sans arrêt parce que je pense qu'il est le plus grand et de très loin. Et Truffaut lui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas, d'où vient cette atmosphère de culpabilité qu'il y a dans tous vos films? Est-ce que ça vient de votre éducation catholique? Parce que Hitchcock a été élevé chez les jésuites anglais, où déjà une particularité très étrange. Est-ce que ça vient de là? Et Hitchcock réagit de façon assez vive, en disant, comment pouvez-vous dire ça, puisque tous mes films présentent un innocent dans un monde coupable. Et là, Truffaut ne pousse pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Prenez North by Northwest, La mort aux trousses, par exemple. Vous avez ce merveilleux Cary Grant, qui en effet, il ne sait pas ce qu'on lui veut. On veut le tuer, il s'appelle Kaplan. Et on veut le tuer, il n'a rien fait. Et tout le monde est à sa poursuite pour le tuer, alors qu'il est parfaitement innocent. Là, il y a, Hitchcock touche quelque chose de profond.
Ça vous a tenté à un moment, le cinéma?
Non, j'ai fait quelques essais qui sont d'ailleurs pas mal, mais non, pas le cinéma au sens. Je vois que par exemple Godard est triste et que se considère comme absolument solitaire maintenant, en dehors de, il est en exil du cinéma. Non. Le cinéma, c'est des moyens considérables, c'est beaucoup d'argent, c'est des contraintes. Mais en revanche, j'ai fait quelques films de montage très, à mon avis, très qui peuvent se regarder à nouveau. Méditerranée avec Jean-Daniel Pollet, qui est mort maintenant. Et puis un film sur l'enfer de la porte de l'enfer de Rodin, qui est calculé au millimètre près, son et parole et musique. Enfin bon. Mais ça, c'est vraiment dans un coin.
Ouais. Votre rayon, c'est surtout les livres. Et
c'est pas pour Hollywood, oui.
Et un des premiers livres que vous avez lu dans la bibliothèque familiale à Bordeaux, c'était un livre illustré sur la Grèce antique.
Ah oui, absolument. Il y avait des livres comme ça. Ce qui m'étonnait le plus, d'ailleurs, c'est qu'il y avait des bibliothèques très fournies. On trouvait des choses épatantes. Et que les adultes ne s'en servaient jamais. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi ont-ils tous ces livres? On ne les voit jamais les ouvrir. Et alors, je dois beaucoup, en effet, à ces ouvrages. Notamment aux reproductions en couleur des vases grecques. Où on voit des scènes étranges, bondissantes. Et cet orange et ce noir me parlaient.
Et les Grecs, vous les faites parler aussi dans l'autre livre dont nous n'avons pas parlé, Philippe Solers, Guerre secrète, au pluriel, aux éditions Carnet Nord.
Oui, mais ça, c'est un livre auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un livre de relecture intensive de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est à quoi je dois mon pseudo, hein, c'est-à-dire Solaire. Solaire, c'est la traduction latine de Polymétis pour Ulysse, l'homme aux mille ruses. Voilà. Donc j'ai rouvert l'Odyssée, je me suis rendu compte que je l'ai lu peut-être 10 fois, mais que il fallait tout. C'est sorti vers moi d'une façon tout à fait nouvelle. Puis alors après, c'est Dionysos, dieu quand même, hein, le dernier des dieux grecs, qui m'intéresse depuis Nietzsche, qui en faisait un dieu philosophe, Dionysos Philosophos. Alors qui est Dionysos? Qu'est-ce qui arrive en réalité à Ulysse? Pourquoi est-il protégé par la déesse Athéna? Oh, que c'est curieux. Et que tous ces dieux nous manquent peut-être. Ils ont des rapports très étranges entre eux. Et puis les déesses, surtout. Oh, je suis très favorable aux déesses grecques. Elles manquent.
Vous avez toujours été favorable aux déesses?
Oui, je suis favorable.
Et aux filles?
Aphrodite, oui, oui, c'est ça, c'est la dédicace de moi. On m'a reproché de publier les dédicaces qui m'ont été envoyées sans se demander de qui elles étaient, ni même ce qu'elles pouvaient dire, comme si c'était un geste de pure vanité. Quelle idiotie. Est-ce que vous connaissez un jeune homme qui, à 23 ans, recevrait d'André Breton une réédition des manifestes du surréalisme avec en dédicace à machin, c'était Philippe Solers, aimer des faits, F-E-S, signé André Breton, qui ne serait pas... quand même dans un état de contentement extrême, que André Breton lui dise qu'il est aimé des faits. À moins que plus personne ne sache qui est André Breton, c'est possible après tout. Mais moi, je m'en souviens.
Ce titre, Guerre secrète, réunit deux mots qu'on retrouve souvent dans les titres de vos livres, hein, guerre et secret.
Parce que les vraies guerres sont secrètes. Vous avez des guerres frontales, des guerres dont on vous parle, des guerres qu'on peut filmer, des guerres de brutalité insensée. Mais en réalité, tout se passe peut-être en amont, en dessous, latéralement, comme les Chinois le comprennent. C'est pour ça qu'il y a un long dégagement sur les stratèges chinois du premier siècle, qui sont d'une actualité absolument bouleversante aujourd'hui. Voyez la guerre clausewitzienne, c'est la guerre classique, enfin la guerre napoléonienne. Bon, c'est ce que les Américains, justement, font. Ils croient qu'il faut arriver en force, bombarder, tout écrabouiller, et ils sont très surpris quand, non seulement ils tapent à côté, voir la guerre du Vietnam, où toutes les fournitures passaient à 10 kilomètres alors qu'ils avaient de mauvaises cartes, ou alors, regardez Bagdad, c'est un échec sans précédent de ce genre de stratégie guerrière. Donc ils ont dans la tête une guerre qui méconnaît absolument l'essentiel, c'est-à-dire le secret. Mmh.
Vous comptez 4 sens de la guerre. Les 3 premiers, c'est Ulysse, Dionysos et Sun Tzu, qui sont repris dans un 4e que vous appelez avec Joseph de Maistre la guerre des papes.
Ah oui, alors ça, c'est à venir encore. Il faut développer ça parce que c'est très très important. J'ai écrit tout un livre qui s'appelle Le Secret sur l'attentat du 13 mai 1981 qui a eu lieu sur la place Saint-Pierre de Rome contre Jean-Paul II. Tout ceci m'a tout de suite intéressé. C'était les Français à ce moment-là s'occupaient de l'élection de Mitterrand à la présidence de la République française et criaient dans les rues on a gagné, on voit bien tout ce qu'ils ont gagné, c'est de plus en plus évident. Donc moi ça m'intéressait, c'était ça. C'est-à-dire les assassinats personnalisés, alors, je ne vous parle pas des massacres alors, qui abondent dans l'histoire humaine, sans parler le XXe siècle on a dépassé toute la mesure possible et imaginaire dans ce cas-là, la Shoah et tout ça, mais l'attentat ciblé m'a toujours paru extraordinairement révélateur. Exemple, l'assassinat de Kennedy, qui reste quand même dans le flou le plus complet depuis l'assassinat contre Olof Palme en Suède, qui était très intéressant. Puis alors surtout, c'est pas tous les jours qu'on tire sur un pape, hein, et qui s'en tire à deux millimètres du trajet de la balle. Il s'en est suivi un procès très 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 bizarre, avec une désinformation énorme. Ça m'intéresse, parce qu'est-ce qu'il voulait tuer ? Alors bien sûr, il y a de la géopolitique, à la Pologne, il y a ceci, il y a cela. Et alors de là, on peut aller à se demander ce que fait toujours ce personnage étrange qu'on appelle le pape. Quelqu'un qui a tourné beaucoup autour de ça, sur qui j'ai fait un essai, je crois, assez pertinent, c'est Francis Bacon, vous savez. Parce que il a peint. Je vais aller en parler à Rome, là, à la Villa Médicis. Je vais parler de pourquoi Innocent X hantait tellement Francis Bacon, qui a fait ses papes comme s'ils étaient sur des chaises électriques en train de crier. Et puis, pourquoi on a essayé d'assassiner Jean-Paul II? Et puis, alors, pourquoi? Ça, c'est encore plus surréaliste, la rencontre. C'est beaucoup plus que la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. C'est la rencontre de Mozart avec un pape qui joue du piano. Et qui tient à faire savoir qu'il joue du Mozart. Il y a un timbre, d'ailleurs, qui a été édité au Vatican sur le centenaire de la naissance de Mozart. Alors, un pape allemand, parce que le président était polonais, qui veut se faire savoir, qui fait monter son piano, qu'on voit bien qu'il joue du Mozart, c'est pas tous les jours. Mais alors, à ce moment-là, l'ignorance est tellement grande, je me rappelle quand Jean-Paul II, j'étais à New York, Jean-Paul II est élu, un inconnu total, que je vois passer à la télévision le soir, qui parle anglais, qui a l'air sportif, il est loin d'avoir encore pris ses 2 balles dans le ventre, et donc j'étais à ce moment-là en professeur, enfin je faisais semblant d'être dans une université, et le chairman qui était là, qui est un honorable correspondant probablement de la CIA, je téléphone à Paris, et Julien me dit, tiens c'est curieux, on vient d'élire un pape polonais. Polonais, ça veut dire qu'il n'avait pas eu, il était italien depuis 455 ans. Il y avait la situation en Pologne. Tout de suite, mon cerveau s'agite rapidement. Et je me tourne vers ce professeur, enfin, ce chairman. Et je lui dis, tiens, il y a un truc curieux, c'est que, on vient d'élire un pape, il paraît qu'il vient d'élire un pape polonais. Et il me regarde, il me fait, so what? C'est vous donner la dimension des services américains de l'époque. Thank you.
Guerre secrète aux éditions Carnet Nord, un vrai roman mémoire chez Plomb, De Koning Witt, une réédition à la différence, et L'Infini numéro 100 chez Gallimard. Surpris par la nuit, Romain Lenoir, Manouchak Fachaï, Didier Pinault, Alain Weinstein.